Ivanoé Kruger, vous êtes le directeur de Push, ces ateliers d'artistes qui sont installés pour l'instant, on va dire, dans une ancienne usine de parfums à Aubervilliers. 40 artistes de Push ont investi la collection Lambert grâce à une exposition dont vous êtes le co-commissaire avec Stéphanie Bars. 40 artistes et combien de nationalités ?
On ne les a pas comptés, mais je pense que la moitié sont des artistes étrangers. Beaucoup viennent de loin. Il y a des Brésiliens, il y a des gens qui viennent beaucoup d'Amérique latine, d'ailleurs des Colombiens aussi. Il y a des artistes qui viennent d'Afrique, il y a des artistes qui viennent d'Asie, il y a des artistes qui viennent d'un peu tous les continents. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement des Espagnols, des Italiens, il y en a beaucoup aussi. Mais on part vraiment dans un grand voyage à la découverte de ces artistes qui ramènent chacun un petit peu de leur bulle culturelle avec eux, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance de travailler avec eux au quotidien.
Quels sont les critères d'élection pour faire partie de Push ?
Alors, on a fait plusieurs appels à candidature. L'idée, c'est que les artistes, comme on est un projet qui était au début en tout cas éphémère, on change souvent de bâtiment, comme un petit Bernard l'Ermite. Le critère, c'est déjà le fait d'être artiste, d'avoir un travail qui peut s'inscrire plus ou moins dans un centre d'art, mais les centres d'art, heureusement, sont de plus en plus ouverts. Donc on accueille des danseurs, on accueille des curatrices, on accueille des gens qui travaillent le son aussi, mais qui toujours dans cette idée de travailler, pourquoi pas, d'être montré dans un centre d'art ou un musée. Donc avant tout, ça c'est le critère numéro un. Évidemment, on essaye aussi, comme on est une sorte de terre d'accueil, un outil idéal pour un artiste qui vient de débarquer, parce que ça permet de rencontrer tout un monde de l'art en train de se faire, et ça permet aussi de rencontrer plein de professionnels qui travaillent en région parisienne ou à l'étranger, parce que beaucoup de gens viennent de loin, souvent, pour visiter notre lieu. Un autre critère qui est vraiment très important, c'est celui d'être ouvert sur les autres. Pas seulement être là pour avoir un atelier pas cher et être dans son coin, mais aussi pour travailler, collaborer, aider les autres artistes avec ces différentes techniques, se faire aider aussi, hein, ça, certains l'ont bien compris. Voilà, il y a cette dimension sociale et ouverte qui est très importante, enfin, durant la sélection des artistes. Aussi, il y a un critère qui est évident aussi, c'est celui du niveau. C'est toujours difficile de le juger sur un portfolio parce que voilà, déjà chacun ses goûts. Après, en regardant beaucoup de choses avec un regard entre guillemets aiguisé, on peut savoir plus ou moins ce qui est dans son temps, mais est-ce que dans son temps c'est le bon goût ou pas. Donc on regarde aussi entre guillemets le CV, quelles sont les expositions que les artistes ont fait, par où ils sont passés. Un artiste qui a pu exposer dans des centres d'art, dans des grands lieux, évidemment, aura peut-être plus de chance, mais on a pris aussi beaucoup de risques, on a accueilli aussi beaucoup de très jeunes artistes en se disant cela, à mon avis, il faut vraiment les aider, leur donner leur chance parce qu'ils ont quelque chose à raconter. Donc on marche un petit peu sur un fil là-dessus. Et voilà, ça c'est les critères de sélection.
Le titre de l'exposition à la collection Lambert, c'est « Revenir du présent ». Alors cette exposition est chapitrée, alors j'ai noté par exemple « À l'orée du bois »,« Les choses de la vie », si ce monde vous déplaît. Ces têtes de chapitre, vous les avez déterminées avec Stéphanie Bars avant le choix, ou est-ce que ce sont les artistes et ce qu'ils ont proposé qui ont initié les têtes de chapitre ?
C'était une sorte de petit ping-pong. Avec Stéphanie Bars, on a longtemps eu des discussions interminables, déjà pour savoir qui ou non partirait à Avignon. Ça fait beaucoup de jaloux, hein, parce que la collection Lambert, pour tous les artistes, c'est un lieu phare. Là, quand on rentre, on a un grand Basquiat dans l'entrée, donc ce sont vraiment des gens qui ont marqué l'histoire de l'art. Il y a eu ce ping-pong avec Stéphanie Bars, on a passé des heures de discussion à sélectionner les artistes déjà, avec cette idée de parler des courants, comme on disait, de l'art en train de se faire. L'idée, c'était de prendre un peu le pouls de l'art aujourd'hui. Qu'est-ce qui réunit les artistes? Quelles histoires ils sont en train de raconter ensemble? Donc on a tiré comme ça de ces sélections d'artistes des chapitres qui puissent en réunir certains, mais après, il n'y a pas de règle, hein. Certains artistes sont dans les 5 chapitres, certains artistes sont simplement dans un chapitre, mais il y a vraiment cet aller-retour permanent entre la signature et le travail des artistes, ce qu'ils aiment raconter, quel est leur discours, et en même temps, nous, ce qu'on voulait dire par cette exposition, c'est-à-dire faire une sorte d'état de lieu, d'offrir au public un outil d'observation de qu'est-ce que c'est l'art en France aujourd'hui, pourquoi l'art en France se porte jamais aussi bien qu'en accueillant aussi des artistes internationaux qui viennent rayonner aux côtés des artistes français.
L'exposition, lorsqu'on la visite, bon, on traverse un couloir d'épines, de citronnier, donc là c'est un peu dangereux je dirais, mais à part ce passage là qui est absolument magnifique d'ailleurs parce que ce couloir est monumental, c'est un peu un lieu culte de la collection Lambert, le reste de l'exposition, les œuvres sont à la fois ancrées vraiment dans notre époque Et en même temps, il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup de poésie, je veux dire, même une certaine douceur qui émane des créations des artistes que vous avez invités.
C'est peut-être le fruit du hasard. Parfois, il y a des contrastes entre la douceur. On peut parler de l'œuvre de Mathis Desménil, qui fait sur ces grandes plaques d'acier des paysages très doux, de nature florissante, mais qui sont faits à l'arc électrique, d'une grande brutalité comme instrument. Donc il y a peut-être un jeu entre de la douceur et une critique de la société aujourd'hui, une critique d'un avenir qui sera meilleur ou pire. Il y a des œuvres qui peuvent être un petit peu tristes. Après, c'est peut-être que racontées par des gens qui aiment tant ces artistes, donc c'est Stéphane Ibars et moi-même, forcément, peut-être on ressent encore plus de douceur, parce que voilà, c'est des artistes qu'on aime profondément et on a envie de retranscrire au mieux leur travail. Il y avait une certaine forme de poésie qui peut s'apparenter à de la douceur, qui est très présente dans deux de ces salles, notamment à l'Orée du Bois, qui est un petit peu « Il était une fois ». C'est ce début, ce moment où on rentre dans l'exposition, comme quand on rentre dans une forêt, c'est le moment où l'aventure commence. C'est le moment où on a tous ces animaux qu'on perçoit à travers la végétation. On n'est pas trop sûr si c'est des monstres ou si c'est juste un courant d'air, s'il y a le vivant grimpant et rampant qui nous attend. Et voilà, ça peut être inquiétant aussi, hein. C'est pas que de la douceur, mais certains artistes nous donnent des armes ou des rituels pour se protéger, pour protéger notre périple.
Vous venez d'évoquer une œuvre qui est absolument magnifique, mais qui a été réalisée de manière très brutale, avec un arc électrique. Par exemple, moi j'appellerais ça des naines jardins en béton, mais qui sont vraiment très très poétiques. Il y a cette cité absolument extraordinaire qui a été construite uniquement avec des matériaux de construction et des serre-joints. Il y a une volonté d'anoblir le banal ou d'anoblir le matériau brut.
Beaucoup d'artistes là dans l'exposition travaillent avec le béton, mais c'est un peu le travail des artistes de pas seulement faire de l'orfèvrerie, transformer des matériaux luxueux pour avoir une sorte de valeur ajoutée. Et ce qu'on aime bien montrer dans une exposition, c'est à quel point les artistes peuvent, avec presque rien, des objets trouvés, des collections de capsules de bière, apporter une grande poésie et parfois même visuellement nous offrir des objets d'une grande préciosité qui démontrent d'un grand savoir-faire. Cette idée d'anoblir, que ce soit des déchets, que ce soit du béton, que ce soit un morceau de métal rouillé, c'est le tour de magie qui a lieu quand les artistes se mettent au travail et c'est ce qu'on voulait un petit peu démontrer dans cette exposition. Parce que c'est quand même pas des grandes productions, c'est pas des industries, hein. C'est un travail qui parfois peut polluer beaucoup. Je pense que maintenant les artistes, enfin, étant conscients déjà du fait d'eux-mêmes polluer, et c'est que les gens maintenant ont vraiment l'impression de polluer chacun à leur échelle. Si tout le monde ne fait pas quelque chose, les artistes doivent montrer l'exemple. Donc de plus en plus travaillent avec des objets qu'ils trouvent. Les artistes travaillent quand même plutôt en ville, même s'il y a plein d'exceptions. Et quand on trouve un objet, ça peut être un bout de bois, mais c'est souvent aussi une canette de bière, une vieille fourchette en plastique, petits morceaux de plastique issus de tel ou tel jeu pour enfants. Enfin, il y a plein d'objets comme ça qui peuvent être récupérés, donc qui sont des objets industriels, donc qui peuvent nous rappeler le ready-made. Après, je pense pas que les artistes aient ce discours en tête, ils veulent pas refaire du ready-made, ils veulent simplement peut-être aussi proposer des formes un peu plus simples, qui sont plus familières, répéter. Cette idée de la répétition, elle est assez importante dans notre histoire de l'art très contemporaine. Éric de Chassé en a d'ailleurs fait une exposition à Pompidou-Metz très intéressante, très juste plutôt. Dans le fait de puiser dans son écosystème, forcément on tombe sur des objets, c'est ce qu'ont fait les artistes qui produisaient des ready-made, mais parfois c'est pour dire complètement autre chose. Je pense notamment à Marlon de Azambouja, donc qui a construit cette grande ville qui est composée de milliers de petites briques et de matériaux de construction qui sont tous serrés par des serre-joints, qui donnent l'impression d'une architecture comme ça.
Une ville sur pilotis, en fait.
Oui, c'est ça. Ça parle déjà aux petits et aux grands, et c'est très important. Quand déjà ça parle aux petits, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et c'est un très bon indicateur d'une belle œuvre d'art, d'une bonne œuvre d'art. Tous ces différents facteurs font qu'on retrouve des objets du quotidien de plus en plus dans les œuvres d'art aujourd'hui. Mais c'est le cas quand même depuis quelques années.
Alors, si on suit l'itinéraire, en fait, une fois qu'on a passé la dernière pièce, qui est l'auditorium, ce qui devient, c'est qu'on ressort un chantonnant.
Oui, c'est que la dernière pièce, c'est une pièce de Carla Arda, qui est une artiste assez loufoque, moi qui me plaît énormément, que j'avais découvert d'abord au Palais de Tokyo, avec des performances, avec des personnes qui viennent nous murmurer des choses, toujours avec un ton. L'humour dans l'art est souvent perçu comme plutôt desservir le travail.
L'humour, c'est pas sérieux, en fait.
Voilà, l'humour, c'est pas sérieux. Moi, je trouve que les plus grands artistes sont ceux qui savent le mieux rire. Et Carla Arda, elle propose cette vidéo à la fin dans le grand auditorium, qui ressemble presque à une sculpture. Il y a de la moquette bleue absolument partout, des formes en tisson. Et ce clip vidéo musical où elle se trimballe, elle change de vêtements, elle chante, elle raconte des... C'est une petite comptine très drôle, qui est comme une sorte de générique de fin. Parce qu'après une exposition, en racontant autant de choses, parfois politiques, parfois sur des rites ancestraux, parfois très sérieuses, terminer sur un moment, j'ai envie de dire presque de légèreté. On est bien, en fait, on s'assoit pour la première fois et on a cet artiste qui nous chante plein de choses, parfois très sérieuses, parfois très drôles. Ça va en faire sourire certains et c'est important, comme on le soulignait tout à l'heure, d'avoir ce petit clin d'œil humoristique.